allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ces mots.
Allume la science.
Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Saviez-vous que la cantine scolaire est une invention française ? C'est en 1844 qu'Émile Depasse, maire de Lannion, sollicite les bourgeois de sa ville pour financer un service de restauration dans le bureau de charité qui accueille chaque jour 150 enfants pauvres de la ville. Une initiative qui se généralise en 1880 avec les lois Ferry, rendant l'instruction obligatoire. Il faut néanmoins attendre 1951 pour que la qualité nutritionnelle à la cantine fasse l'objet d'une réflexion, et c'est l'UNESCO, la première, qui demandera à ce que les repas soient composés de manière à favoriser la croissance et le développement psychologique de l'enfant. Dans l'éducation nationale, les premières circulaires apparaissent au début des années 70, et c'est en 1999, que se dessinent les grandes lignes pour la structuration et l'élaboration des repas. En 2001, le ministère de la Santé lance le programme national Nutrition Santé, le PNNS, considérant la restauration scolaire comme un moyen d'éducation nutritionnelle. Il faut encore attendre 2011 pour que le grammage en sucre dans une portion alimentaire fasse l'objet de recommandations. Enjeu de santé, l'alimentation devient ces dernières années, avec la crise écologique, un enjeu de durabilité, avec notamment une plus grande part accordée au bio et au local au menu des cantines. Mais comment aller plus loin ? Notre invitée est chercheuse en nutrition, Aline Rae. Elle a participé à une étude pour améliorer la durabilité des repas scolaires en France et nous livre quelques pistes intéressantes. Nicole Darmon, bonjour.
Bonjour.
Elle ne raterait le jour des frites pour rien au monde. Avec moi pour mener cette interview, Aline Perriot. Bonjour Aline.
Bonjour.
Allume la science, vous avez le programme, c'est parti.
Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55...
Alors, Nicole Darmon, on sait que le menu des cantines est élaboré par des professionnels, des nutritionnistes, pour assurer la qualité nutritionnelle des repas. Mais depuis quand est-ce que les cantines ont obligation de prendre en compte la dimension durable de leur menu ? Et est-ce qu'elles ont d'ailleurs obligation de prendre en compte cette dimension-là ?
Ah ben ça, oui, elles ont une obligation depuis la loi Egalim, qui a apporté vraiment un tournant sur la prise en compte, en plus des aspects nutritionnels, de l'aspect sur le respect de l'environnement.
Elle date de quand, cette loi ?
Alors, cette loi Egalim, elle date de 2019. Et par exemple, enfin, une chose assez marquante, c'est qu'elle a... Alors, au début, c'était sous forme d'expérimentation pendant 2 ans, elle a obligé les cantines à servir un repas végétarien par semaine. Donc, à titre d'expérimentation d'abord, et puis en 2021, la loi Climat et Résilience a pérennisé ce repas végétarien hebdomadaire qui aujourd'hui est obligatoire. Et la loi Egalim aussi a fait... une proposition d'obligation de service de 50% de produits dits de qualité et durable. Et donc, il y a une liste, en fait, de produits, dont, par exemple, les produits sous label et, plus spécifiquement, 20% de produits bio. Et là aussi, il y a eu une période de mise en place de cette disposition. Et aujourd'hui, en 2022, c'est obligatoire également. Donc on a ces changements-là qui sont intervenus. Et par contre, pour le suivi, effectivement, de la mise en place des changements, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas vraiment... les moyens humains pour aller
contrôler dans chaque cantine,
voilà, j'imagine. Si les choses sont mises en place, avec quelles difficultés, quels sont les leviers activés, etc.
Alors, on parle aujourd'hui d'alimentation durable. Est-ce qu'on peut détailler un peu ce que c'est quand on parle d'alimentation durable? On parle de quoi exactement? Est-ce que, par exemple, vous pourriez nous détailler les indicateurs que vous avez pris en compte pour mesurer l'impact environnemental des repas dans les cantines?
Oui, alors l'alimentation durable, c'est un concept qui existe depuis relativement peu de temps finalement, puisque une première définition de l'alimentation durable a été donnée par la FAO en 2010. Et cette définition dit que une alimentation durable doit être favorable à la nutrition et à la santé de l'homme. Elle doit être aussi en accord avec la culture. Donc il y a tout un aspect social qui est extrêmement important, parce que si c'est pas culturellement acceptable, ça n'est pas adopté par les individus et les populations. Il y a l'aspect environnemental, bien sûr, avec tout un tas d'indicateurs environnementaux qui sont importants à regarder, et pas seulement l'impact carbone, parce qu'ils sont pas tous, ils évoluent pas tous forcément dans le même sens. Et puis l'aspect économique, puisqu'il faut que ce soit à la fois rémunérateur pour le producteur et accessible financièrement pour le consommateur. Donc nous, dans l'étude que nous avons faite sur la restauration scolaire, la plus récente qu'on ait faite, l'objectif c'était de trouver le bon compromis entre nutrition et environnement. Donc on n'avait pas de données sur le coût et voilà les aspects économiques. Et pour les aspects culturels et sociaux, en fait, la seule chose sur laquelle on a pu se baser, c'est qu'on est parti de plats effectivement servis dans des écoles. On n'a pas quelque chose de totalement théorique. Alors, est parti d'une base de données.
Justement, je vais vous demander, parce que vous êtes parti d'un modèle mathématique en combinant 17 scénarios. On a lu ça sur le communiqué. Vous pouvez nous expliquer un peu cette méthodologie?
Oui, alors c'est une méthodologie qui a consisté à générer des très grandes quantités de séries de 20 repas. Alors pourquoi des séries de 20 repas? Parce que la loi de 2011 dont vous avez évoqué l'existence tout au début dans le générique, eh bien c'est une loi qui impose des règles de service de certains plats.
C'est les règles de fréquence,
c'est ça? Dans une série de 20 repas.
C'est les règles de fréquence, j'allais vous demander après, mais je vais vous demander maintenant. C'est ça, les règles de fréquence?
Oui, c'est ça. Il y a 15 règles de fréquence qui doivent obligatoirement être appliquées dans une série de 20 repas. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé un modèle mathématique pour générer donc des centaines de séries de 20 repas qui respectent ces règles de fréquence, ou des scénarios un peu différents de ces règles de fréquence. Et dans les scénarios qu'on a regardés, on a regardé plusieurs leviers, et un des leviers importants qu'on a regardé, c'est l'augmentation du nombre de repas végétariens.
D'accord, on va y venir voilà. Un peu plus tard justement.
Oui, du coup, je reviens sur la méthodologie que vous avez mise en place. Une des pistes que vous avez explorées, c'était de descendre de 5 composantes par repas à 4 composantes. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que c'est qu'une composante dans un repas?
Oui. Alors, la composante dans un repas, donc, il est obligatoire d'en servir 4 ou 5. Quand on en sert 4, c'est ce qu'on appelle le plat protidique, donc viande, poisson ou œuf. Aujourd'hui, ça peut même être donc un plat végétarien. L'accompagnement de ce plat, le produit laitier, et le quatrième peut être soit une entrée, soit un dessert. Et quand on sert 5 composantes, c'est entrée et dessert. Entrée, plat protidique, accompagnement, produit laitier, dessert.
Et la perspective de passer de 5 composantes à 4, est-ce que c'était concluant dans votre étude?
L'idée initiale, c'est que quand on met moins de composantes sur le plateau, on va impacter moins. Mais en réalité, on s'est rendu compte que le gain en termes d'impact environnementaux n'a pas été énorme, parce que c'est soit une entrée, soit un dessert qu'on enlève, et ce ne sont pas les produits les plus impactants sur le plateau d'un enfant ou même d'un adulte. La composante la plus impactante, c'est toujours la composante protidique. Et donc, c'était pas si concluant. On baisse un peu, bien sûr, puisqu'on enlève quelque chose. Mais on baissait en même temps les apports caloriques du repas. et peut-être un peu trop pour certains enfants qui ont besoin quand même de consommer des quantités plus importantes.
Comment vous la mesurez justement, la qualité nutritionnelle d'un repas ? Est-ce qu'il y a un modèle ? Est-ce qu'il y a un dispositif particulier pour le mesurer ?
Alors, on fait des calculs à partir des tables de composition des aliments. Il y a en particulier la table SICA qu'on utilise généralement, puisque c'est la table de composition nutritionnelle des aliments servis en France. Et à partir de cette table, nous, on a calculé les compositions nutritionnelles des plats servis, des plats qu'on a dans notre table de plats servis à l'école. Et à partir de la composition nutritionnelle des plats, on calcule celle des repas et des séries de repas.
Et justement, je reviens aux règles fréquentielles que vous avez évoquées tout à l'heure. Vous avez montré que les respecter, ces 20 règles fréquentielles, ça augmentait légèrement l'impact environnemental du repas. Pourquoi ?
Oui. Alors, ça augmente légèrement l'impact environnemental du repas parce que y a plus de fruits et de légumes et il y a plus de viande, de vrais poissons, donc des produits qui possiblement sont un peu plus impactants que si on en servait moins. Mais on a vu aussi que c'est pas quand même une augmentation énorme et le gain nutritionnel vaut la peine de la petite augmentation en termes environnemental. Donc par contre, ce qui est vraiment sûr, c'est que respecter ces règles, ça on l'avait déjà montré avant et on le redémontre là avec cette étude récente, respecter ces règles, c'est une vraie garantie de qualité nutritionnelle.
Et oui, il y avait déjà eu une étude INRAE, c'est ça, sur cette question.
Tout à fait.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le levier le plus important que vous révélez dans cette étude, c'est l'augmentation du nombre de repas, enfin celui que vous explorez réellement, c'est l'augmentation du nombre de repas végétariens. Donc aujourd'hui, les cantines, elles proposent un repas végétarien par semaine. Vous proposez de passer à trois. Donc, sur quel impact environnemental ça agit ? Sur quel levier environnemental ça agit, le fait de multiplier les repas végétariens ?
Alors, en fait, on a étudié pratiquement tous les impacts environnementaux qui sont proposés dans la table Agribalise de l'ADEME et de l'INRAE, qui est une table qui donne pour chaque aliment et chaque ingrédient ses impacts. Alors il y a l'acidification, appauvrissement de la couche d'ozone, changement climatique, donc impact carbone, écotoxicité. Enfin voilà, on les a pratiquement tous utilisés. Et pour tous ces indicateurs, en fait, on a un bénéfice à augmenter la part des repas végétariens.
Alors, en revanche, vous êtes aperçu dans cette étude que l'augmentation des repas végétariens, ça pouvait diminuer la qualité nutritionnelle des repas. Dans quelle mesure ça peut l'impacter ?
Alors, au-delà de 12 repas végétariens sur 20, là, on voit une diminution des impacts environnementaux, mais une diminution notable de la qualité nutritionnelle. Donc, effectivement, plus on va aller vers du végétarien, et on est allé jusqu'à 20 sur 20 hein, pour pousser à l'extrême, plus on va avoir une baisse de tous ces impacts. Mais à partir de 12 sur 20, là, on a aussi une baisse de la qualité nutritionnelle. C'est pour ça qu'on dit qu'on peut aller jusqu'à 12 sans problème. Et à ce moment-là, on aura un double bénéfice nutritionnel et environnemental.
Juste pour mesurer justement l'impact que ça peut avoir, on n'a pas pensé à vous demander, ça représente combien de repas par jour la cantine scolaire en France ?
Alors là, vous me posez une colle. Hein.
D'accord.
La cantine scolaire, je peux vous dire que, enfin si on peut dire, il y a 8,5 millions de jeunes qui la fréquentent, selon l'enquête 1K2, qui est la dernière enquête de l'ANSES sur les consommations alimentaires des Français. Donc ça fait un jeune sur deux, mais ils y vont pas forcément tous les jours. Quand ils y vont 4 à 5 fois par semaine.
D'accord, mais on se rend quand même un peu plus compte.
Voilà, ça fait quand même, c'est très massif. Hein.
Oui, c'est massif.
C'est une grosse quantité, oui.
Alors justement, à côté de ces trois repas végétariens, vous préconisez pour les deux repas restants, pardon, de servir du poisson et de la viande blanche. Mais vous affirmez que cela nécessite une révision de la réglementation. Pourquoi ?
Alors en fait, on ne préconise pas vraiment de servir de la viande blanche. On a testé, parce qu'aujourd'hui, ce qui est obligatoire, c'est de servir 4 poissons, et puis du vrai poisson, du filet de poisson, et 4 viandes rouges non hachées. Et nous, on s'est dit, mais c'est un peu dommage, parce qu'on sait que la viande rouge, c'est celle qui est la plus impactante en termes environnementaux. Donc on va faire un scénario avec 4 poissons et 4 viandes blanches pour voir.
D'accord.
Effectivement, quand on a mis 4 viandes blanches, ben, on s'est rendu compte qu'on avait une baisse de l'impact en carbone et des autres impacts environnementaux bien plus importante.
Quand vous parlez de 4 poissons et 4 viandes blanches, c'est sur 20 repas, c'est ça?
C'est toujours sur 20 repas, oui. 12 repas végétariens, 4 poissons, 4 viandes
D'accord.
blanches, ou 12 repas végétariens, 4 poissons, 4 viandes rouges. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de préconisation à donner à l'INRAE. On a fait des scénarios, on a vu les résultats sortir de ces scénarios. Et on voit qu'effectivement, quand on met 4 viandes blanches, on arrive, par exemple, pour les émissions de gaz à effet de serre, à descendre à 50%. À diminuer de 50% ces émissions. Alors quand on reste sur 4 viandes rouges qui est obligatoire aujourd'hui, on ne diminue que de 25%. On diminue quand même puisqu'on a les 12 repas végétariens.
Et est-ce qu'il y a une différence de qualité nutritionnelle entre les viandes blanches et les viandes rouges?
Alors de qualité nutritionnelle, non. En fait, il n'y a pas vraiment de différence notable quand on regarde sur des séries comme ça de 20 repas où c'est totalement diversifié et omnivore, donc ça se sent pas du tout. En revanche, il faut voir aussi les limites de ce travail, c'est-à-dire que c'est pour ça que la préconisation, c'est pas d'enlever la viande rouge à l'école, mais peut-être de rééquilibrer, d'aller vers une diversité de services de viande, réduire la fréquence de services de viande, et puis diversifier les types de viande qui sont servies. Et là, on a fait un tout dernier scénario qui n'a pas été publié, mais qui va peut-être faire l'occasion d'une petite note dans le journal So What de la chaire UNESCO Alimentation du Monde, où là, justement, on a testé plutôt un scénario plus réaliste et peut-être moins risqué compte tenu des différentes limites de ce type d'études théoriques, qui est un scénario de diversité, justement, donc d'avoir 4 viandes d'origine différente. Et on arrive à moins 35% d'émissions, de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En fait, moi, c'est plutôt ça que j'ai envie de préconiser, de communiquer. Et d'ailleurs, curieusement, cette proposition de service de viande d'origine différente, c'est une préconisation que j'avais déjà faite, parce que je l'avais testée. Et la première fois où je me suis intéressée à ce sujet, c'est-à-dire il y a 20 ans.
Et alors là, on a beaucoup parlé de viande. J'aurais une petite question plus précisément sur le poisson, parce que vous dites qu'il y a aussi 4 repas. Mais
ouais.
On sait aussi qu'il y a des problèmes de pression sur la ressource pour ce qui concerne le poisson. L'industrie de la pêche est d'ailleurs de plus en plus subventionnée. Est-ce que sur le plan nutritionnel, c'est vraiment nécessaire de manger du poisson une fois par semaine?
Le poisson, c'est important. Contrairement à la viande, il y a dans le poisson des nutriments qu'on trouve quand même très difficilement, voire jamais dans d'autres aliments, qui sont les acides gras oméga-3 à longue chaîne et la vitamine D. Donc c'est vrai que c'est difficile de dire qu'on va pouvoir remplacer le poisson par autre chose, tandis que les viandes sont interchangeables entre elles et même finalement il n'y a pas dans la viande des nutriments qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Après, je suis d'accord avec vous, on a des problèmes de pression sur les ressources halieutiques. Et ça, on n'a pas testé de version. Enfin, si, on a finalement testé les versions sans poisson quand on a poussé le curseur des repas végétariens jusqu'à 16 et 20. Et justement, la réduction de qualité nutritionnelle qu'on voit, elle est aussi due au fait qu'il n'y a plus de poisson, quoi.
Alors, on se souvient qu'il a fallu batailler longtemps pour que soit adopté ce repas végétarien une fois par semaine à la cantine. Il y a eu des débats politiques à non plus finir. Est-ce que vous pensez que cette idée de trois repas végétariens par semaine, elle va être acceptable socialement ? Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à accepter ça en France ?
Non, je pense qu'on n'est pas prêt à accepter ça. Savoir que ça peut contribuer à améliorer... les impacts environnementaux sans dégrader la qualité nutritionnelle, ben ça pourrait être une petite pierre pour commencer à le faire accepter. Mais je pense pas effectivement qu'on soit prêt. Et pour qu'on soit prêt aussi, il faut des travaux sur l'acceptabilité gustative, sur les représentations, sur plus général sur l'alimentation. Là, ça fait plutôt appel à des travaux aussi en sociologie de l'alimentation, des travaux sur le goût, sur la culinarité. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Nous, ce qu'on apporte, c'est vraiment une petite pierre assez théorique, finalement. Hein.
Et d'aller justement vers les viandes blanches, comme vous le disiez, est-ce que ça peut être un premier pas, justement, ou est-ce que même ça, c'est culturellement un peu compliqué, hein?
Bah, d'aller sur les viandes blanches, en plus on n'est pas complètement sûr que ce soit absolument la solution, parce que il y a des choses qu'on n'a pas prises en compte dans l'étude, qu'on pouvait pas vraiment prendre en compte sur le fait que la viande des élevages de porc et de volaille entre plus en compétition avec l'alimentation humaine que l'élevage de ruminants, notamment l'élevage des bovins à l'herbe, qui finalement ne consomment pas des aliments qui pourraient être consommés par l'homme. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose dont on n'a pas tenu compte. C'est pour ça que je dis que notre préconisation, c'est pas de passer à 4 viandes blanches, mais de mettre moins de viande rouge et de diversifier les sources de viande.
Et justement, vous parlez d'élevage, donc c'est intéressant. C'est la question que je voulais vous poser après. Est-ce que la filière viande et les professionnels de l'élevage, vous avez des échanges avec eux ou vous avez une idée de leur réaction suite à ces études et à ces préconisations, finalement, de diminuer la quantité de viande dans les cantines ?
Ah ben, ils sont, c'est difficile pour eux, hein, bien sûr. Donc, mais en même temps, je pense qu'ils commencent à comprendre, et d'ailleurs, ils communiquent là-dessus, sur en manger moins mais mieux. Donc là, je pense que c'est quelque chose sur lequel tout le monde s'accorde aujourd'hui. Et c'est important que les efforts soient faits dans ce sens-là.
Vous l'avez dit dans les premières questions, il y avait des éléments qui faisaient pas partie de votre étude, notamment donc les produits bio ou le local. Est-ce que vous pensez quand même que donc cet effort en ce moment qui est fait notamment depuis la loi Egalim pour aller vers plus de produits bio et local, elle a un impact environnemental fort aussi?
Alors ça, en fait, moi, je peux pas penser, en fait...
Il n'y a pas d'études qui ont été faites encore pour l'instant,
voilà.
C'est ça ?
Et les calculs, on les a pas.
Ouais. D'accord, ils n'ont pas encore été faits.
Et vous l'avez dit aussi, vous n'avez pas forcément tenu en compte le paramètre coût du repas dans ces études.
Oui.
Mais l'idée que la cantine, c'est aussi un enjeu qui permet de lutter contre la précarité alimentaire.
Oui.
Est-ce que, du coup, ça, c'est quelque chose dont on peut tenir compte dans ces préconisations ?
Alors ça c'est quelque chose d'intéressant parce que la relation entre la restauration scolaire et les inégalités sociales en France, elle est un peu paradoxale parce que d'un côté en fait on voit que il y a une fréquentation de la cantine qui est positivement associée au niveau socio-économique, c'est-à-dire que c'est plutôt les enfants issus de foyers favorisés qui vont fréquenter la cantine, alors que ceux qui sont plus pauvres, plus défavorisés, sont moins nombreux à la fréquenter. Mais d'un autre côté, on a vu, et très clairement, notamment lors du confinement, que la fermeture des cantines, ça a été une catastrophe, hein, puisque ça a aggravé et déjà rendu visible la sécurité alimentaire qui existait, et puis même a contribué à l'aggraver. Donc c'est quand je dis que c'est paradoxal, c'est-à-dire que la cantine pourrait contribuer à réduire les inégalités sociales de santé, mais c'est pas vraiment le cas, puisque finalement, les enfants pauvres sont pas ceux qui y vont le plus. Et il y a quelque chose quand même qui pour pourrait être fait pour aller dans ce sens-là, c'est d'élargir les pratiques de tarification sociale, c'est-à-dire de prix progressif de la cantine selon le niveau de vie des foyers. Aujourd'hui, c'est assez peu répandu, même si il y a eu, dans le cadre de la stratégie de prévention et lutte contre la pauvreté, une incitation assez forte pour les communes, puisque aujourd'hui, si une commune met en place, d'ailleurs c'est le cas à Montpellier, hein, une tarification sociale de la cantine, eh bien pour chaque repas qui est facturé aux familles 1 euro ou même moins d'un euro, l'État va en verser 3 euros. Donc c'est vraiment une incitation importante, mais là c'est pareil, bon, le dernier chiffre que j'ai date de mai 2021, je ne crois pas qu'il y ait eu de mesures depuis, on a seulement une commune sur 5 en France qui pratique la tarification sociale. Donc ça, il faudrait vraiment pouvoir le déployer à beaucoup plus large échelle, quoi.
Et est-ce qu'on sait si les cantines sont un véritable levier pour promouvoir une alimentation durable à la maison ? Est-ce qu'il y a un effet, justement, boule de neige, un peu ?
Alors, c'est difficile à dire, ça. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée de... J'aurais tendance à dire, oui, quand même, puisque les enfants sont un peu les prescripteurs, hein, à la maison. Donc, s'ils ont apprécié... des choses qui se passent à la cantine, ça peut se répercuter à la maison, mais à l'opposé, si au contraire ça se passe pas bien à la cantine, ça peut aussi être avoir l'effet inverse. Oui. Donc en réalité, je n'en sais rien. Il faut conduire des études là-dessus, c'est très important. Ouais.
Et du coup, là, on parle des cantines scolaires, mais finalement, l'alimentation collective, c'est aussi les cantines d'entreprise, les hôpitaux, oui. Des secteurs qui brassent beaucoup de repas en volume. Est-ce que votre étude, elle serait généralisable à l'alimentation collective dans ces autres secteurs-là ?
Oui, je pense que ce serait à peu près pareil, parce que finalement, les enfants ont des besoins nutritionnels qui sont pas si éloignés de ceux des adultes. Ce qui est servi à l'école est un petit peu plus restreint, peut-être en diversité culinaire que ce qui peut être servi aux adultes. Mais les conclusions, je pense, seraient tout à fait similaires. Ouais.
Et est-ce qu'il y a déjà des obligations de respecter des critères de durabilité dans l'alimentation collective en dehors des cantines ?
Non, il n'y a pas ces obligations-là, non. Les recommandations, les 15 fréquences, elles existent sous forme de recommandations, donc là déjà pour les aspects nutritionnels, et elles sont souvent suivies, par exemple c'est utilisé comme cahier des charges très souvent pour quand on fait appel à un prestataire, mais il n'y a pas d'obligation, et il n'y a pas non plus d'obligation comme celle que la loi Egalim impose sur le service de produits bio et locaux.
Alors, on arrive quasiment au terme, mais peut-être en une petite minute. Est-ce que vous savez si les pouvoirs publics sont à l'écoute ? Est-ce qu'ils consultent les études que vous sortez ?
Oui, je pense qu'ils sont tout à fait à l'écoute de ce qu'on a pu produire. Et d'ailleurs, dans le cadre du CNRC, le Conseil national de la restauration collective, qui est actuellement depuis un certain temps d'ailleurs, en train de plancher sur la révision de ces fameuses 15 fréquences de service. On a été auditionné avec ma thésarde, hein, puisque ce travail a été fait dans le cadre de la thèse de Romane Poinceau, qui est une thèse montpelliéraine. Et on a été auditionné à plusieurs reprises pour expliquer ce qu'on faisait. On a même testé pour eux un scénario particulier qui était celui sur lequel ils étaient en train de travailler eux. Donc oui, ils sont tout à fait au courant et à l'écoute de ce que nous faisons.
Un grand merci à vous, Nicole Darmon, pour cette longue interview qui a duré plus longtemps que prévu, mais c'était passionnant. Merci beaucoup.
Ok, super. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir.
Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock et pardon, j'ai raté. Alors, Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Adeline Flock et Anna Demelandre pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.
Allume la science.
C'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière.
Une sorte de relativisme absolu.
Inversion complète de la charge des protons.
La Terre va entendre ses mots.
Allume la science.